marché avec Christ en 2016. Je voudrais ce matin vous faire quelques propositions de comment marcher avec Christ durant cette année 2016. Prions. Seigneur, sans ta lumière, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton éclairage, l'éclairage de ta parole. Nous avons besoin que le Saint-Esprit aussi vienne nous aider à comprendre ta parole, à en saisir le sens, à voir ce que nous devons prendre là-dedans pour vivre. Nous avons besoin, Seigneur, de cela. Ce matin, encore une fois, nous voulons ouvrir ta parole et nous voulons que tu nous guides dans cette lecture, dans ce partage, que chacun de nous prenne sa part d'aujourd'hui et que nous puissions ainsi, chaque jour de nos vies, te glorifier. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous guider, pour nous conduire et pour nous parler. Au nom de Jésus, nous te le demandons ainsi. Amen. Amen. Colossiens, chapitre 2. Nous allons lire du verset 6 au verset 7, deux petits versets. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. C'est court, mais il y a tellement des choses intéressantes là-dedans. Alfred Kuhn, qui a écrit la parole, la traduction de la parole vivante, disait quelque chose un tout petit peu avant d'arriver au verset 6, au verset 5 dans sa version. Il disait quelque chose qui m'a parlé. Je me suis imaginé, il a dit, mener une vie d'église aussi ordonnée qu'une armée. Et une vie de foi aussi solide qu'une forteresse. Waouh ! C'est un souhait que j'aimerais tellement voir se réaliser chez nous aussi, dans notre église. Une vie d'église en ordre de marche, en bon fonctionnement, et une vie de foi de chacun de nous aussi solide qu'une forteresse. Solide qu'une maison imprenable. Et je pense que Dieu veut cela. Dieu veut que nous menions une vie qui soit à cette hauteur-là, que notre vie produise des œuvres qui manifestent notre foi en lui. Je vous ai parlé que une des choses que je trouve qui peut nous motiver en tant que chrétiens, c'est la passion de Dieu, cet amour fort pour Dieu, cette prééminence accordée à Dieu, cette espèce d'amour fort pour Dieu, comme exactement quelqu'un qui est passionné par quelque chose et qui dépense son énergie pour ça, qui s'investit là-dedans, qui fait tout son possible pour encore et encore participer. Si nous avons la passion pour Dieu, nous pouvons vouloir véritablement que notre passion produise des œuvres pour notre Église, mais aussi dans notre vie personnelle. Évidemment, en 2016 comme en 2015, nous allons poursuivre la marche avec Dieu. Nous continuons. Marcher avec quelqu'un, marcher avec Dieu, c'est vivre avec Dieu, c'est avancer avec Dieu dans les différents aspects de notre vie. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, dans les différents projets de notre vie. Et durant 2016, nous allons encore poursuivre cette marche. Et ce texte nous donne quelques lignes force, quelques propositions pour atteindre le vœu de pouvoir marcher véritablement avec le Seigneur cette année 2016. Comment réussir notre marche? Comment faire en sorte que cette marche avec Jésus durant cette année soit une marche qui soit, je ne vais pas dire productive, parce que productive, ça sous-entend une rentabilité. Mais je dis féconde. Féconde. Je préfère le mot fécondité au mot productivité. Parce que dans le mot productivité, il y a la rentabilité, il y a l'effort que je fais, et peut-être même un peu la petite vantardise que voilà, j'ai réussi par mes propres forces. Tandis que dans la fécondité, il y a cette idée véritable que je produis quelque chose, pas seulement par mes propres forces, c'est aussi par le Seigneur. C'est grâce au Seigneur que je produis quelque chose de positif, que je vais vers quelque chose de positif, que ma vie spirituelle va de positif en positif, pas au regard des hommes. Ça dit que c'est pas que je vais devenir un meilleur chrétien qui lit mieux sa Bible, c'est pas de ça que je parle, mais c'est au regard de Dieu d'aller de progrès en progrès. Comment réussir ce challenge, ce défi? Ce texte fait quatre propositions, quatre clés, et c'est ça qui fera l'objet de notre prédication ce matin. Quatre points. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, s'adresse aux Colossiens, donc aux chrétiens de Colosse. Est-ce que vous savez que Paul n'a jamais été à Colosse? Il n'a jamais été à Colosse. C'est un autre homme formé par lui, Epaphras, qui a été là-bas, qui a été formé à Éphèse pendant 3 ans, qui venait de Colosse, qui est retourné vers Colosse et qui s'est retrouvé avec des problèmes là-bas et qui est venu demander conseil à Paul. C'était quoi les problèmes? Le problème, c'est que quand on a annoncé la nouvelle, le salut, il y a eu tout un courant des personnes qui se sont mêlées au milieu des chrétiens et qui ont voulu enseigner, qui ont voulu enseigner des enseignements, enfin qui ont voulu apporter des enseignements qui disaient que oui, le salut c'est bien, mais il faut plus. Et qui recherchaient dans le plus spirituel, par exemple, le culte des anges, etc. Et donc, ils ont apporté une dimension où, à travers la connaissance, ils essayaient d'expliquer que plus tu connais les choses, plus ta spiritualité est encore plus profonde. Et c'est pour mettre un coup d'arrêt à ça, à cette hérésie qui commençait à se développer à Colosse, que Paul a écrit notamment cette lettre aux Colossiens. Dans cette épître, donc, l'apôtre Paul va vraiment avoir pour but aussi d'affermir la foi des chrétiens face aux fausses doctrines développées malheureusement par des faux croyants. Et oui, ça existe aussi des chrétiens qui font semblant de croire en Dieu, mais qui ne le sont pas, et qui viennent dans les milieux pour apporter des nouvelles doctrines, des nouvelles conceptions des choses qui sortent complètement de la pensée profonde de Dieu. Et ça, je vais juste faire le résumé courtement du début de ce chapitre 2. Pour prévenir contre ce risque de déviation par rapport aux hérésies, l'apôtre Paul va souligner le fait que son ministère, c'est d'annoncer l'Évangile. Et au cœur de l'Évangile se trouve la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour lui, Christ suffit. Il ne faut pas plus. Il ne faut pas amener autre chose que Christ. Il ne faut pas ajouter. Christ suffit. C'est ce qu'il essaye de montrer. Et donc, il essaie de montrer que, puisque Christ suffit, il ne sert plus à rien de rechercher son progrès spirituel, rechercher une marche spirituelle, améliorer la marche spirituelle, soi-disant, avec autre chose. Juste avec Jésus. Ça suffit, c'est ça le message de l'Évangile, c'est ça le christianisme. Jésus-Christ, à la fois la personne, comme je viens de dire, c'est-à-dire Dieu fait homme, la personne incarnée sur cette terre, puisqu'il voulait aussi annoncer que Jésus-Christ ne pouvait pas être un homme. Il ne pouvait être que Dieu. Il ne peut pas s'être incarné, ce n'est pas possible, puisqu'il est Dieu, il est pur. Entre guillemets. Non, c'était bien Jésus-Christ, Dieu fait homme. Il est venu sur cette terre. C'est bien de son œuvre, œuvre salvatrice, œuvre à la croix, où il est mort en versant son sang. Et lorsqu'on a compris cela, dit l'apôtre Paul, lorsqu'on a compris l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, lorsqu'on a adhéré totalement à ça, et qu'on a fait de ça sa réalité, qu'on se reconnaît soi-même comme ayant été pécheur, et qu'on a été sauvé par la grâce, et que c'est vraiment la grâce de Dieu qui permet que nous soyons sauvés. Lorsqu'on est d'accord avec ça, et qu'on a invité Jésus à venir et à devenir notre Seigneur et Sauveur, et que nous voulons véritablement ancrer notre vie en Christ, alors on rejoint le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ce message s'adresse donc à tous ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont appris à vivre avec Christ. Quelle est l'instruction, quelle est la recommandation que Paul fait? Marchez en lui. Marchez sous sa direction. Marchez dans la communion avec lui. C'est ça qu'il dit, en quelque sorte. Marcher avec lui. Mais marcher avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, c'est pas toujours une chose facile. Parce que il faut vraiment apprendre à connaître la personne, apprendre à faire les mêmes pas, apprendre à dialoguer, à parler, à faire les choses en harmonie, en synergie, en symbiose, en quelque sorte. Et ce n'est pas toujours évident. Dans ce texte, Paul propose quatre choses qui peuvent permettre que notre marche soit une marche féconde, comme je viens de dire, agréable, réussie en quelque sorte. Quatre choses, quatre propositions. Regardez, première proposition, marcher en lui étant enraciné. Première chose. Deuxième chose, fondé. Donc, enraciné toujours en lui, fondé en lui, deuxième chose. Troisième chose, ça va être affermi par la foi. Et la dernière chose, ça va être abondé en action de grâce. D'abord, enraciné. La marche chrétienne n'est féconde que si nous sommes enracinés en lui. Quand on parle de racines, à quoi pensez-vous en premier lieu? Aux arbres, aux citoyens. Oui, n'est-ce pas? Parce que quand on parle des racines, on parle, on suppose, on sous-entend l'idée des racines, des arbres, pardon. Or, les racines des arbres, quelle est leur fonction? Quelle est la fonction de la racine d'un arbre? Première fonction, c'est d'abord de soutenir l'arbre. C'est ce qui tient l'arbre droit, qui le tient stable, qui lui donne sa solidité, sa force, en quelque sorte. La deuxième fonction, c'est que la racine va dans la terre où elle puise les éléments nutritifs qui vont permettre à l'arbre de pouvoir vivre. Vivre, simplement. Grâce à la nourriture, l'arbre peut vivre. La nourriture apporte donc la vie. Sans nourriture, il est évident que l'arbre va mourir. Et sans racine, c'est sûr aussi que l'arbre ne tiendra pas debout. Elle va s'écrouler. L'apôtre donc nous exhorte ici à avoir tout notre être s'implanter en Jésus-Christ. C'est notre personne tout entière qui doit apprendre à s'implanter profondément en Christ. Comme un peu un arbre qui, dont les racines plongent dans la terre, nous avons aussi à implanter complètement notre vie en Jésus-Christ. Afin de recevoir de la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas que de pain, seulement de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, de la bouche de l'Éternel. Et nous sommes appelés à véritablement implanter notre vie en Christ, notre être en Christ. Et quand on parle de notre être, on parle à la fois de la dimension du corps, de l'âme, de l'esprit. Faire en sorte que notre corps, notre esprit, notre âme soient complètement immergés, implantés dans le Seigneur Jésus-Christ. Cela est nécessaire pour notre stabilité spirituelle. Cela est nécessaire pour notre vie spirituelle, parce que c'est de là qu'on reçoit la nourriture nécessaire pour notre vitalité. Alors, comment faire en sorte que nos vies soient implantées en Christ? Comment faire en sorte que mon être entier soit vraiment implanté dans la personne de Jésus-Christ? Comment poser mes racines en Christ? Je pense que il y a des choses qui rendent possible cette démarche-là. Une des choses, et c'est un peu ce qui est donné à travers le développement de cette exhortation de marcher, une des choses, c'est de vivre notre vie selon la direction, de soumettre notre vie à la direction du Seigneur. Faire en sorte que notre personne, notre être, soit complètement sous la direction, sous la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, je crois que c'était un peu loin là que j'étais mis ça, mais tu sais retrouver ça? Voyez ce que l'apôtre dit, je vous exhorte donc frère, vous connaissez ce texte, hein, donc je ne fais que revenir sur ça. Je vous exhorte donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps. C'est faire en sorte que mon corps soit à la disposition de Dieu. Faire en sorte que mon être entier soit à la disposition de Dieu. C'est l'instrument de Dieu. C'est pour Dieu que je vais vivre, que je vais mettre à disposition mon corps. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfois, on dissocie les deux, parce qu'on veut sous-entendre d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. Mais le refus de me conformer à la façon dont on conçoit l'être aujourd'hui dans le monde fait partie des obligations du chrétien. Ne pas fonctionner avec la conception que mon être, il est comme dans la société, on nous apprend à être. Mon être, mon corps, mon âme, mon esprit est réservé à Dieu. Il est pour Dieu. Il vit dans la direction, selon la direction de Dieu, sous la direction de Dieu. Et donc, je n'ai pas à faire les choix qui sont ceux que le monde me pousse à faire. Je dois donc chercher à conformer. Vous voyez, ne vous conformez pas. Je dois donc chercher à conformer ma vie, à conformer ma volonté, mes choix, ce que je fais dans ma vie, je dois essayer de les conformer, non pas au modèle du monde, mais au modèle de Dieu. La volonté nous appartient à nous. C'est à nous de le faire. Et nous pouvons le faire chaque jour. Nous pouvons le faire à travers la prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à chaque jour implanter ma vie en toi. Que ma vie soit une vie qui soit à ta disposition, que soit comme quelque chose que je t'offre. Mon être soit quelque chose que je t'offre. C'est un cadeau pour toi, pour que tu le transformes et tu agisses avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit, comme toi, Seigneur, tu veux. Chercher à soumettre mon être à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu que je dois faire? Comment Dieu veut que je me comporte chaque jour? Comment Dieu veut que je sois pour lui? Cela fait partie de cette volonté d'implanter notre vie en Christ, de poser nos racines en lui. Deuxième chose, la marche chrétienne n'est possible, n'est féconde que si nous sommes fondés en lui. Quand on parle de fondement, on pense à la construction. Vous êtes d'accord? À la fondation. On pense à la maison. Une maison, dans une des fonctions de maison, une maison, c'est un lieu à l'intérieur duquel on vit. C'est un lieu d'intérieur. C'est un endroit où on mène une vie qui n'est pas celle que l'on mène en dehors, dans la rue, dans des endroits d'ailleurs qu'on appelle publics. Une maison, c'est un lieu d'intérieur. C'est un lieu où on vient se ressourcer. On vient retrouver les siens. On vient retrouver de la chaleur. On vient retrouver de la force pour reprendre les choses. Vous imaginez quand vous avez une maison, une vie de votre maison, où il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des soucis. Eh bien, vous allez voir que s'il y a des soucis dans la maison, dans votre vie d'intérieur, ça va affecter aussi votre vie de l'extérieur. Mais il est possible que vos soucis de l'extérieur ne viennent pas perturber votre vie d'intérieur quand votre maison devient comme une espèce de bunker, de havre de paix, où vous savez que vous allez retrouver le calme, la tranquillité, la paix. Une vie d'intérieur. Ce texte, Paul exhorte en fait à construire notre vie intérieure sur le fondement de Jésus-Christ. Que Christ soit la fondation de notre vie intérieure. Quand on construit une maison, on fait attention à la fondation. Parce que la fondation va déterminer la solidité d'une maison. Et notre fondation à nous doit être Christ pour notre vie intérieure. Comment mener ma vie intérieure de manière à ce que Christ soit la fondation? C'est peut-être ça la question à laquelle on doit peut-être réfléchir. Comment construire ma vie sur le fondement de Jésus-Christ? Eh bien, nous avons déjà dit cela et c'est juste rappeler que ce soit quelque chose qui nous détermine cette année. Je développe ma vie en développant ma vie de prière personnelle. La prière, on l'a déjà dit et on le répète encore, la prière personnelle, c'est doit pas être considérée comme un ensemble des mots que je débite devant Dieu. C'est véritablement un moment d'intimité avec Dieu. Un moment où je suis seul face avec Dieu. Où je ne cherche pas à parler et à imposer à Dieu mes idées. Où je suis là aussi pour l'écouter et comprendre les choses qu'il veut me dire. Vous savez, nous les hommes, on a ce défaut que lorsqu'on va vers Dieu, on lui parle, comme à la confesse. On débite tout ce qu'on a à dire, tant on a fini, ah, ça me fait du bien. Au revoir Seigneur. Et ça s'arrête là. Mais développer un moment d'écoute. Développer une vie d'écoute. Seigneur, parle-moi aussi. Dis-moi aussi des choses. Apprends-moi aussi des choses. Enseigne-moi aussi, Seigneur. En travaillant notre caractère spirituel, il y a des choses qui doivent changer chez nous. On ne peut pas, en se connaissant le caractère propre à l'esprit qui habite en nous, la foi, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, la bonté, je ne sais pas quoi, il y en a d'autres là encore, hein, Galates chapitre 5, verset 22, je pense. Et on connaît tous ces caractères. Et on n'est pas tracassé de voir que on ne les vit pas. On n'est pas tracassé. On trouve que bon, c'est normal. Je ne les ai pas. Bon, c'est bien. C'est très, très bien. Mais chouette. En priant et demandant à Dieu de changer notre caractère spirituel. Les choses qu'on nous reproche chaque jour. Les choses qu'on nous dit toujours que c'est notre problème. Échanger, travailler à ça, en combattant le péché. Vous savez, nous avons une aptitude naturelle à pécher. Et souvent d'ailleurs, le plus grand péché que nous commettons, vous savez c'est quoi? C'est juger les autres. J'aime bien dire ça à mes enfants. Quand tu demandes à un enfant, qui a déposé ça ici? Il dit, pas moi. Pourquoi ça se trouve à tel endroit? Ah, je ne sais pas. Et qui pourrait avoir mis ça là-bas? pas moi. Ou alors, certains, parce qu'ils brillent aussi en délation, c'est pas moi, mais c'est l'autre. Et quand tu appelles l'autre, il dit, mais c'est pas moi! Voyez? Et nous, les chrétiens, nous sommes un peu comme ça. Nous péchons souvent parce que nous disons, pas moi, Seigneur. Lui, c'est lui le mauvais. Moi, non. Je me plains de sa méchanceté. Seigneur, je suis même solidaire avec toi. C'est quand même pas bien ce qu'il fait là. C'est pas bien. Hein? Je suis triste de voir que lui, ça va pas. Vous voyez? Ça, c'est un des trucs que nous faisons beaucoup. Mais travailler son caractère, c'est moi. Où j'en suis avec Dieu, personnellement. Qu'est-ce que j'apporte, moi, dans ma relation avec le Seigneur? Et j'aimerais ce matin que travailler notre caractère spirituel fasse partie aussi de notre programme. Combattre le péché soit aussi fait partie de notre caractère. Et dans le contexte de ce texte ici, combattre les pensées. Nous avons tendance à avoir toujours des pensées où nous voulons nous plaindre, nous voulons murmurer, nous voulons nous opposer, mais apprendre à dominer notre pensée et à faire en sorte que nos pensées soient des pensées bienveillantes, des pensées qui reflètent le cœur de notre Seigneur. Troisième chose, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. La marche chrétienne n'est féconde qu'avec la foi. Mais pas n'importe quelle foi. La foi qui a été enseignée. Autrement dit, il s'agit de quoi? Il s'agit des bases spirituelles. Il s'agit du dépôt de foi en termes de ce qui a été transmis comme enseignement, comme connaissance. Que faisons-nous des choses qu'on nous a apprises? Que faisons-nous des choses que nous connaissons par l'enseignement qu'on a reçu? Nous sommes des évangéliques. Ok, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous avons reçu un type d'enseignement déterminé. Ça veut dire que nous avons une profession de foi déterminée. Que faisons-nous de ça? Est-ce que nous avançons spirituellement avec ça? Est-ce que nous faisons des progrès dans notre démarche de foi? Est-ce que nous sommes en train de nous attacher à ça, c'est-à-dire à être fidèles à ça, à se baser sur ça en disant, voilà notre partage, et voilà ce que nous devons faire, et nous devons chercher comment aller plus loin, comment améliorer, comment avancer, grandir dans cet aspect des choses, dans ce que nous connaissons. Bien sûr, la foi vient de ce que l'on entend. Mes enfants ne pourront pas parler d'une autre foi que la foi que moi je leur ai transmise. C'est comme ça. Mais que faisons-nous de cette foi-là? L'idéal, pour moi en tant que papa, ce ne serait pas seulement que mes enfants comprennent la foi que moi je leur ai transmise et qu'ils croisent les bras en se disant, ben, bon, papa disait ça, papa faisait ça, papa croyait ça. Oui, mais c'est très bien, nous aussi on le croit, mais voilà quoi, c'est tout quoi. Non, je serais heureux si je vois que cette foi-là qui a été transmise se vit et fait grandir les enfants, les emmène encore plus loin. C'est ce que l'apôtre est en train de dire, c'est ce que l'apôtre vient expliquer. La foi doit forger notre marche spirituelle et nous permettre de vivre pour Christ. La foi sur la base de ce que nous avons été enseignés. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de place pour commencer à spéculer. C'est ça que l'apôtre Paul combat. Pas de place pour la spéculation, pas de place pour le doute, pour la remise en question. Je ne parle pas d'émettre une critique positive. Oui, s'il y a des choses sur lesquelles il faut se poser des questions, oui. Mais même le but pour lequel je fais ma démarche, c'est toujours pour que j'aille plus loin, que j'avance, que je fasse tomber les petits écueils qui se présentent sur mon chemin. Mais ce n'est pas pour m'installer dans un débat théologique où je conteste sans fin. Non, c'est pour que j'aille de l'avant. Tout ce qui nous est donné, c'est pour que nous puissions faire des progrès avec Dieu pour la suite. Dernière chose, dernière clé, dernière proposition, abonder en action de grâce. C'est vrai que c'est bizarre de parler de l'action de grâce dans tout ce qui a été présenté depuis maintenant. Là, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Et en plus, l'apôtre dit abonder, c'est-à-dire faire abondamment des actions de grâce. Donc, d'être abondamment reconnaissant. Waouh! La vie ne nous permet pas d'être si reconnaissant que ça. Il y a tellement de problèmes, n'est-ce pas? On a plus de soucis que des solutions. On n'a pas le temps d'être reconnaissant. Mais c'est ce que l'apôtre demande ici. D'avoir des propos où l'on témoigne de la reconnaissance à Dieu et pour ce que Dieu fait. Paul exhorte donc les chrétiens dans leur marche chrétienne, dans leur marche spirituelle, à manifester leur reconnaissance beaucoup plus qu'autre chose. Beaucoup plus que quoi? Beaucoup plus que les murmures, beaucoup plus que les plaintes, beaucoup plus que la mauvaise humeur, beaucoup plus que les mauvais propos, beaucoup plus que tout ce côté négatif que nous avons si facile à développer dans nos relations. L'apôtre encourage dans la marche spirituelle à être reconnaissant à Dieu et à le dire, à s'arrêter, à se scotcher sur ce que Dieu a fait de bien et le relever. Et le relever. Et ce n'est pas seulement que l'apôtre Paul qui encourage cela. On voit ça un peu partout dans le texte biblique. Et la reconnaissance chez l'apôtre Paul va beaucoup plus loin. Elle ne concerne pas seulement que les bonnes choses que Dieu a faites pour nous. Hein. Elle concerne aussi même les choses moins bonnes. Je n'ai pas donné ce texte-là, mais le texte de Thessaloniciens qui dit « Rendez grâce à Dieu en toute circonstance. » Ce n'est pas seulement quand tout va bien. On rend grâce à Dieu même quand ça ne va pas. Dieu veut des gens qui ne pleurnichent pas, qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'installent pas dans le murmure, dans les plaintes, mais qui sont reconnaissants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se plaindre. On peut se plaindre, mais on ne doit pas s'installer dans l'état des plaintes. On ne peut pas, on doit pas s'installer dans les murmures. On doit manifester plutôt de la reconnaissance. Et il y a toujours une bonne raison qu'on peut trouver pour dire merci à Dieu, pour louer Dieu. La reconnaissance, c'est l'antidote de la dépression. C'est l'expression même de l'humilité. Il n'y a que quelqu'un qui est humble pour dire merci. Vous avez vu les dix lépreux là, qui ont été guéris par Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui revient. Jésus s'étonne, dit, mais où sont passés les autres? La reconnaissance est un signe d'humilité. Ça veut dire que je me situe comme plus bas que celui qui m'a fait du bien. Sinon, je ne lui dirais pas merci. Hein. La reconnaissance, c'est un moyen qui facilite la marche avec Jésus. Vous savez, si vous êtes reconnaissant avec quelqu'un, si vous avez l'attitude de reconnaissance avec les gens, vous allez avoir une vie facile avec les gens. Parce que vous saurez leur dire merci. Vous saurez vous souvenir de tout le bien qu'ils vous ont fait pour leur rendre aussi le bien. Vous saurez vivre des échanges positifs avec les gens. Mais lorsqu'on n'est pas reconnaissant, on croit que tout nous est dû. Tu m'as fait du bien parce que je le vaux bien. C'est tout. Ça s'arrête là. Et pourquoi dois-je te dire merci? Quatre propositions, quatre clés. La première proposition qui touche à notre être humain, à notre être. La deuxième proposition qui touche à notre vie. C'est notre vie. Construire la vie d'intérieur. La troisième proposition touche à notre cœur. Bâtir, fonder sa vie, son cœur, s'attacher à son cœur. Et la dernière proposition touche à l'ensemble, à l'attitude de l'ensemble. Que nos vies, cette année, soient menées sous la direction du Seigneur. Que notre marche en Christ soit une marche en communion avec lui. Que pour atteindre cette marche dynamique, féconde avec le Seigneur, pour l'atteindre, travaillons. Travaillons à enraciner notre être en Christ, afin d'être nourris et être nourri et en bonne santé et être stable. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, travaillons à fonder nos vies en lui, afin que cette vie solide dans laquelle Dieu est présent, afin que nous ayons une vie solide dans laquelle Dieu est présent. Travaillons aussi à, troisièmement, à nous attacher à la foi qui nous a été enseignée, afin d'y faire des progrès. Non pas pour les contester, mais pour faire des progrès, avancer. Enfin, travaillons nos cœurs à être reconnaissants et à le témoigner plus que toute autre chose. Choisir toujours la reconnaissance plutôt que les plaintes. Toujours la reconnaissance plutôt que les murmures. Alors, notre marche avec le Seigneur cette année sera une marche féconde. Une marche qui nous fera du bien, nous fera plaisir, mais en même temps, certainement, faire plaisir au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à véritablement aller de l'avant avec tout ça et à passer une année agréable avec lui. Amen.